C'est bon, faut plus toucher.
Bon, mais, je vous remercie d'être venus, si nombreux. J'ai plus l'habitude de parler en public. Hein. Je fais des rapports, je travaille dans un bureau, chez moi. J'ai transformé la porcherie en bureau et donc je travaille là depuis plus de 20 ans. Avant, j'étais enseignant. J'étais enseignant dans le supérieur. En fait, j'étais chef de département de géologie à Agadir. Et après, j'étais enseignant à côté de chez moi, 10 km à Salignac. Mais là, c'est une maison familiale. Donc je suis passé des étudiants, qui étaient tous boursiers, et très intéressés à des enfants et des ados qui étaient dans un circuit plutôt scolaire. Mais bon, on s'adapte. Quand on aime son pays, on s'adapte à tout. Donc je suis là pour... d'abord, je voudrais remercier Elisabeth et l'association des amis du musée de la Raimondie, ainsi que l'association des amis du Xéodénon, de m'avoir invité. Donc le Causse de Martel... Donc ces limites, elles sont très nettes. C'est très noir, c'est des failles, donc c'est une limite tectonique. Ça limite avec le bassin de Prime, où il y a du, comme vous savez, des maisons en grès, du grès blanc ou du grès rouge. Ici, il y a une autre limite, c'est en blanc, c'est la vallée de la Tourmente. Et le puits dissolu, donc il est là, à la confluence de la Dordogne avec la Tourmente. Donc on va faire le tour du Causse de Martel. La limite nord, bon, c'est une limite hydraulique, c'est la Dordogne, et la limite ouest, c'est une limite stratigraphique, c'est le Crétacé, donc c'est des roches qui sont moins calcaires, c'est un mélange de calcaire et de sable, et donc c'est pas du cosse, c'est autre chose, bien qu'il y ait aussi beaucoup de cavités, mais qui n'ont pas la même allure que celles qui se rencontrent dans le Causse de Martel. Donc on va faire le tour, vous repérez Martel, Gignac et Pré-Saint-Sac qui se fait là. On fait le tour en partant de celui que je connais le mieux, du côté de Souillac, les sources du Boulay-Blagour, et en rouge, c'est le bassin versant qui lui correspond. Donc ça, c'est la source du Boulay. C'est à un moment où le Boulay coule, parce que c'est un trop-plein. Il fonctionne quelques mois par an. Cette année, il a beaucoup fonctionné, parce qu'il a beaucoup plu, il a dû fonctionner pendant 4 à 5 mois, ce qui est exceptionnel. En moyenne, c'est 3 mois. Et là, c'est des boules d'arrêt, c'est des sources plus petites qui sont dans le lit du cours d'eau et qui se mettent à couler avant le Boulay lui-même. Et ça donne à la vallée du Boulay ce ruisseau. Hein. Donc déjà, on est dans une dimension... On va parler des sources, du Causse de Martel, et on va parler des sources majeures. On entend par source majeure des sources qui ont un débit conséquent, c'est-à-dire un débit supérieur à 50 litres par seconde, en moyenne annuelle. Donc là, c'est le trop-plein qui coule, mais modérément, avec un pont qui n'est plus du tout utilisé. On ne sait pas où il allait, c'est probablement à un moulin disparu. Là, dans la vallée du Boulay, il y a ce grand viaduc que je vous montre là, de profil avec ces arches. Et il y a des anecdotes sur la construction du viaduc, mais je n'ai pas trop le temps d'en parler maintenant. Là, c'est pour vous montrer sur le Causse. Donc, de la vallée du Boulay, on passe sur la vallée du Blagour. Et ce qui est caractéristique du Causse, c'est la végétation de genièvre et de chêne, pas compris, et la roche affleurante. Et ça, ce n'est pas des cailloux, c'est la roche mère, c'est-à-dire c'est le lapiaz. Donc là, on est dans la vallée du Blagour, et là, on est à la station au forage qui a été fait dans la source, qui est captée pour l'AEP. Donc la source sortait là, donc on la voit couler. Ils ont fait le forage directement ici, sachant qu'ils en ont fait plusieurs autour, donc là, on voit là, et qui n'ont rien donné. Ils ont trouvé l'eau à même la source. Donc ça, c'est le Blagour, et là, c'est la source qui, elle, est restée à l'état sauvage. C'est le gouffre du Blagour. Alors, on parle de gouffre. Bien que ce soit comme des temps. Donc il faut savoir qu'en fait, c'est la forme en coupe, c'est un entonnoir profond de 8 à 9 mètres. Quand il y a des crues, le fond du sable se met en boulance, et à ce moment-là, on peut arriver à sonder, ce qu'on a fait, nous, jusqu'à 24 mètres de profondeur. Donc ça, là, on reconnaît que c'est des dimensions de gouffre. C'est un gouffre noyé, si vous voulez.
Là, c'est la source du Daribel qui est là, qui passe sur la route et qui revient dans un petit gourd qui est une source adjacente au grand gourd que je vous ai montré. Voilà, on a fini rapidement à voir ces sources avec là. Et là, on se déplace vers là où on est, donc vers l'est, et on va voir ces sources, la source de Cacrey, de Briance, vous connaissez, et l'œil de la Doubs, qui sont vraiment voisines de Martel. Donc là, on est à Cacrey, hein, la propriété, c'était Madame de Delmas, et puis c'était vendu à des Américains. Mais on arrive à passer quand même et pouvoir faire une photo. Et c'est bien gardé. Là. Alors la fontaine de Briance, qui a la particularité de sortir en hauteur, avec une chute d'eau. Bien qu'après, l'eau soit, le conduit, soit saturé d'eau, et impénétrable pour un homme à l'air. Donc il faut vraiment des bouteilles. Donc, on la voit de face. Donc la rivière de Briance, elle est longue de 5 km, l'artère principale, et elle se développe sous Martel. Ça, c'est un zoom. Bon, là, c'est la croix de Mirandol. Pour opérer, maintenant, on va aller sur Martel. Et on va se déplacer à l'œil de la Doubs. L'œil de la Doubs qui ressemble un peu aussi au boulet, à la mesure où il y a un bout de falaise, qui est plus important qu'au boulet d'ailleurs. Le boulet c'était 3-4 mètres, et là ça peut être jusqu'à 10-15 mètres. Mais ça a une ressemblance aussi, c'est que c'est un trou-plein. C'est-à-dire il coule qu'en période de pluie. Et vous voyez, c'est une source importante, hein, tout de suite, hein, quand ça coule, c'est une rivière. Hein. On parle de source, mais ce n'est pas des petites. Ouais. Maintenant, on va aller au nord. On va aller voir la source du Sort et la source du Blagour. Alors, le deuxième Blagour. Hein, vous avez le Blagour de Souillac et le Blagour de Chasseau. Alors, ce Blagour, il a une particularité. C'est qu'il est alimenté par deux arrivées d'eau. Une arrivée qui vient de l'imperméable, là, de Trias, à Lima, et qui se perd à la perte de la Couze. Donc, c'est le ruisseau, c'est la Couze. Et l'eau revient là. Mais sous terre, il y a la jonction avec une rivière souterraine qui est où l'alimentation vient de la zone rouge. Donc la zone rouge, c'est la partie du Cos qui alimente le Blagour. Donc le Blagour, si vous voulez, c'est par rapport aux autres qui sont des exurgences. Le Blagour, lui, c'est une exurgence et aussi une résurgence. Dans la différence entre les deux, résurgence, l'eau revient. Donc elle se perd d'abord, comme les pertes de Thémines, vous savez, Louis. Louis, donc, est une résurgence des pertes de Thémines. Et le Blagour de Chasteau, lui, il est à la fois exurgence pour la partie rouge du Cos, 25 km², et il est résurgence pour cette partie que je n'ai pas dessinée, qui est l'imperméable, qui se perd à la perte de la côte. Donc là, c'est la source du Sort, et dans un endroit magnifique qui est abandonné avec des moulins et tout. Et les spéléologues, ils plongent. Et il plonge, mais il faut désobstruer. Il désobstrue sous l'eau des gros blocs qui tirent et pour aller plus loin. Mais bon, c'est très étroit. C'est la même chose vu de plus près. Donc là, on se déplace, on va vers Chasteau, un moulin, c'est le moulin du Rosier. Très beau bâtiment aussi. Là, c'est une cascade de tuf par endroits. Le tuf, on en reparlera, parce qu'au puits dissolu, le tuf, c'est primordial. Et donc là, le tuf se dépose dans la rivière. Il y a certainement eu d'abord un petit ressaut, et puis à moins que ce soit un barrage. Les barrages faits pour les moulins, eh bien, le tuf se dépose. Dès qu'il y a création d'une cascade, le tuf se dépose. Donc là, on est à Ougagour. Mais on est dans la partie ruisseau. Là, le source de Blagour est là. Le ruisseau se développe pas. Donc c'est. Vas-y. Et au Blagour, c'est la Sorte qui exploite. Et ils ont un bâtiment très grand, qui a la propriété, puisque bon, c'est l'eau qui alimente la ville de Brive, donc, entre autres, mais en majorité. Et ils décarbonatent. Justement, je vous parlais du tuf. Le problème de l'eau calcaire, c'est qu'elle encrasse les tuyauteries des appareils ménagers, donc décarbonate.
Donc c'est impressionnant parce que quand on visite à l'intérieur, ben, on a partout de la boue blanche, très propre, à part des moyens électriques. Et ça, c'est la dernière source, la source de Saint-Cernin, qui est une petite unité. On va finir avec la carte de l'ensemble. Non, la petite unité, elle est là, Saint-Cernin. Ce qu'on n'a pas vu, c'est cette grande unité qui est équivalente en surface à l'eau coulée de la boue. C'est la source du Poli qui est en Bourgogne. Hein, puisque le Côte de Martel a fait une particularité de se partager en trois départements. La Corrèze, la Dordogne et le Lot. Voilà, source du Poli. Alors, comment on peut voir sur ce panneau? Profondeur 10 mètres. Vous voyez, moi j'ai corrigé 50 mètres. Hein. Voilà. Ça fait longtemps qu'on sait que ça fait 50 mètres. Hein. Et Nicolas Wildeux, il est passé par là, il sait aussi. Il est remonté au bout de 15 mètres, lui. Voilà. Et donc là, c'est la sortie de l'eau au moulin de Poli. Et vous voyez, tout de suite, c'est la naissance d'une rivière. Donc les sources, comme je vous ai parlé, c'est les sources majeures. C'est des exigences de naissance de rivière. Ça veut dire que dessous, il y a la rivière continue. Moi, je suis spéléo. Là, je ne vous ai pas montré l'image sous terre. Hein. Ça serait un autre sujet. Hein. Voilà, on a fini avec le tour du Côte de Martel. Alors, on a vu ce Côte de Martel et ses différentes unités. Donc, on a maintenant une connaissance avant. On savait les limites géologiques du Côte de Martel, mais on ne savait pas les limites de chaque source majeure. Les traits que je vous ai montrés, là, c'est une construction qui s'est faite récemment, un site de recherche fait par les hydrogéologues, en collaboration parfois avec les spéléologues, moyen de traçage et au moyen de bilan d'eau. Bilan d'eau, donc on recueille la pluie, on recueille les données sur les débits, les stations géographiques, et on calcule avec l'ensoleillement, l'évaporation, l'évapotranspiration, et puis après on fait jouer les réserves, et on fait un bilan d'eau, qui nous donne une surface. Et après, cette surface, puis on peut la comparer à la surface qu'on trouve avec les traçages à la fleurissée. Et c'est pour ça qu'on a fait ce découpage qui est un résultat synthétique relativement récent auquel j'ai participé très tôt, moi, puisque j'étais l'un des premiers à faire un traçage à la fleurissée à partir de Gignac, à Pierre du Touron, jusqu'à Boulay-Blacot. Bon, on va passer maintenant à ce qui nous intéresse précisément, donc ce qu'on devine à travers les carreaux, ce bout de falaise, qui est la limite du puits dissolu. Le puits, donc, ça veut dire immense, massif, sommet. Je ne sais pas, dissolu, je ne sais pas. Mais bon, pareil, vous pourrez se demander, vous liez. C'est pas moi, je ne suis pas spécialisé dans la. Mais comme la vallée, la tourmente aussi, c'est aussi des mots. Je me posais la question, d'où viennent ces noms? Après Uxéodénum, on sait. Donc ça c'est récent, j'ai fait ce montage récemment. Il donne un résultat des trois. Il y a trois moments où je suis allé bénévole défrayé par Jean-Pierre Giraud, que je connaissais, mais pas très bien, et puis après je l'ai mieux connu. Donc en 2000. En 2000, je suis intervenu, et après en 2008, en bénévole, et puis l'année dernière. Et là, c'était par rapport à une prestation. Donc le puits dissolu, le voilà, et il est limité par la tourmente, donc tout le Côte de Martel est là, et la Dordogne, et la Sourdoire aussi. Donc on appelle ça le butte témoin. Butte témoin de quoi? Du fait que, enfin, avant, le Côte de Martel, il englobait ce morceau. De même que Turenne, il n'y avait pas ce vallon suspendu qui sépare Turenne du Côte de Martel. Il n'y avait pas non plus la tourmente ici, et donc c'est la même unité géologique. Donc c'est au quaternaire que la tourmente, qui peut-être était là, elle a rencontré ici la Sourdoire, je ne sais pas, elle est venue là, donc elle a séparé les deux. Mais il y a une continuité géologique. On le voit par la suite. On le verra après. On revient à celle-ci. Je voudrais vous dire autre chose à propos de cette carte. C'est ces surfaces. Donc, pour faire un bassin versant, il y a ce que je vous ai dit tout à l'heure, les traçages, les bilans d'eau. Mais il y a aussi, tout simplement, la topographie.
Donc voilà le bassin versant. D'abord, il faut inventorier les sources. Et à l'oublier, bon, c'est des sources mineures, parce qu'on a une surface qui est petite. Donc il y a les sources de l'Oulier ici, mais il y a aussi les sources de la source de la Guyane, et puis il y a aussi la source du pont Roux et la porte de Rome. Donc d'abord on recense les sources. Après on fait des limites. Bon là j'ai fait une limite, trois limites. Les limites de la butte témoin, grande limite, qui fait 1,32 km², avec un planimètre. Maintenant avec l'informatique on peut dire tout. L'autre limite, c'est sur les falaises, c'est au-dessus des falaises. C'est la limite du massif calcaire, 1,08 km. Et la limite qui nous intéresse, là, c'est le bassin versant des sources de Louis, pardon. Donc c'est 0,34 km². Donc ça fait à peu près un tiers de la surface du massif calcaire. Ça, c'est à partir de la carte topographique. Là, la carte géologique. Donc, c'est une carte géologique qu'on a fait. Qui montre l'imperméable, c'est ce qui trie en bleu, c'est les mares de Torsienne. Et là, c'est le calcaire aalénien, c'est le calcaire roux, je crois. Et là, l'aalénien supérieur, le bajocien. Donc ça, c'est des calcaires en jaune, en violet aussi. Et là, c'est des mares. Donc la mare, elle est imperméable. Donc, l'eau ne peut pas la traverser. Donc, l'eau s'infiltre rapidement, plus ou moins rapidement, dans le calcaire, et après se structure et se regroupe dans les sources. De l'autre côté, on a aussi une source qui est marquée tout à l'heure, là, une autre source ici. Mais le pendage des couches, il faut voir sur la coupe. C'est-à-dire, voilà. Vous voyez, c'est là où on voit les deux sources, là, qui sont face, parce qu'elles sont au contact stratigraphique des mares du calcaire, la source de l'Oulier. Et vous voyez, la suite des couches, c'est en continuité. Donc c'est pour ça que c'est vraiment une butte témoin. Il n'y a pas d'accident géologique, il n'y a pas. C'est la vallée qui a chuté. Et alors, le pendage des couches, il aide à ce que l'eau elle sorte là et pas là. Hein, donc ça explique aussi. Donc les sources, elles sont... Versant ouest, la Guyane et l'Oulier. Alors là, vous avez un plan, maintenant on rentre dans le détail. Donc c'est un plan qui a été fait par les archéologues, parce que là on se rapproche de la problématique avec les archéologues. Et là, vous avez l'ensemble des sources de l'Oulier. Il y a les sources de l'Oulier en deux ensembles, toutes ces sources et ces deux-là, 9 et 10. Alors, source nord, et là les sources de l'Oulier. Alors, comment j'ai fait pour déjà séparer cet ensemble à cet autre? On a fait des prélèvements d'eau donc, en l'an 2000. Donc, avec les moyens qu'on avait, hein, on a fait un conductimètre et un thermomètre. Donc, c'est sur le terrain qu'on a fait des mesures. Donc, on a fait des mesures de conductivité et dans le bassin supérieur. Et là, c'est le bassin supérieur qui coule en période de crue. Et à la sortie du bassin de captage. Et là, on a la même eau, même conductivité, et là, on a une conductivité différente. Alors, en même temps, on s'aperçoit sur le terrain que cette eau-là, elle dépose énormément de calcaire. Donc là, on revient à cette question de tuf. Donc, au cours des temps géologiques, il s'en est déposé en permanence, à la même rapidité qu'actuellement. Et actuellement, on se rend compte à quelle vitesse ça peut aller, puisque les travaux qui ont été faits en 2010, dans des buses de 50, étaient déjà remplis de moitié de calcaire, à tel point qu'ils étaient bouchés et qu'il a fallu les enlever. Ça, c'est les travaux qu'on a faits en 2017. Parce que l'eau est passée sur les côtés, et donc c'était obsolète, les conduits toutes neuves qu'ils avaient. Donc, ça dépose énormément. Et ça a déposé forcément énormément. Ce qui fait que ça a fait un plaquage sur le calcaire, sur le terrain encaissant, un plaquage très, très large, très profond. Et c'est ce qui a été exploité par les Romains pour capturer les sources. Parce que c'est facile à tailler. Où est-ce que j'ai mis mes échantillons? Tu vas les chercher. Je vais apporter un morceau de tuf quand même, qu'on voit ce que c'est. Et donc... Pas mieux, suivant. Ça, c'est tel que c'était. Hein. C'est tel que c'était avant les travaux de...
C'était 2010, ces travaux. Ça passe pas ?
Ça a porté sur un plateau. Merci.
Bon, le tuf, c'est ça. Hein, il y a encore un peu de mousse. La mousse, l'eau coule sur la mousse et dépose. Et dépose autour de la mousse. Et donc, c'est ce qui fait que après, les végétaux, les brindilles et tout ça, se dégradent. Ça fait une pierre très légère. Très légère. Et très facile à tailler. Et pas du tout gélive. Donc, bon, les carrières, après les Romains, au Moyen-Âge, il y avait le fond de taille et tout. Avant qu'ils fassent ces travaux-là, tout ça, c'est dommage. Donc, c'est une pierre qui même servait pour les clés de voûte parce qu'elle n'est pas gênée. Donc, elle est facile à tailler, donc c'est facile pour les Romains de la creuser. Et les Gaulois aussi, puisque en fait, les Gaulois aussi ont creusé. Et c'est ce que j'ai compris, moi, qu'on m'a expliqué, les archéologues, eux, ils ont creusé contre ça, dans l'autre sens, pour essayer de les arrêter. Donc, il y avait la bataille dessus et la bataille dessous. Donc là, voilà, là c'était en 2000, j'avais encore les cheveux tout noirs, c'est comme ça. Et là c'est le captage principal, là, qui coulait bien, et on faisait notre point de mesure de débit. Et là, on avait recoupé les autres sources, que je vous ai dit. Disons que là, on récupère trois sources déjà. Et là, on en récupère 6, voire 8. Il y a des sources sur les talus et tout. On va les voir après. Voilà. Donc le point 1, c'est là, on récupère au pied de ce petit ressort rocheux trois sources, le bassin de captage, deux sources, mais en fait il y en a une troisième. Et après il y avait ces sources là et qu'on récupérait là. Donc là on avait l'ensemble des sources de l'oublier proprement dit. Alors ça c'est une vue du lavoir à l'époque. Et là c'était notre point de mesure où il y a un autre, il y avait une source dans le ravin et puis il y a aussi ici. Un bassin magnifique et que j'ai mieux découvert récemment en 2017 là, parce que là à l'époque il était embroussaillé et puis j'ai pas eu découvert de tôle et puis c'est de l'eau qui est captée par les voisins aussi donc ainsi. Alors voilà, c'est le résultat des mesures. Donc le ravin nord, la conductivité là, on l'a fait deux fois, 500 497. Et le trou plein et la source de l'Oulier, la source supérieure et la source inférieure, 548, 544, 555, 540. Voilà. Bon, là, il y a d'autres mesures, je manque à vérifier. La température est à peu près la même pour l'ensemble des sources. Après, c'est le débit. Bon, et là, c'est les autres sources, je veux dire, Porte de Rome, Pont-Roux et la Guyane, dont je vous ai parlé. La Guyane, elle est aussi très, très carbonatée, 550 la conductivité. Donc plus la conductivité est forte, plus il y a des carbonates dedans. Et donc plus elle a tendance à déposer. Elle dépose quand elle est chargée, mais surtout quand il y a des ressauts. Et donc là, il y a le ressaut, parce que c'est un aquifère qui est suspendu. Vous voyez, la vallée de la Tourmente a creusé plus bas que le point de la source. Pour atteindre la source, il faut monter. En général, les sources, on les a toujours en bas. Là, elle est en haut. Donc, parce qu'elle est suspendue, parce qu'il y a les marnes qui la retiennent. Donc, il y a du dénivelé, et donc ça donne une raison de plus pour déposer. Là, c'est les débits. Alors, les débits, on les a suivis. Donc, en rouge, c'est le ressaut, c'est l'ensemble des sources, et là, c'est la source nord. Donc, là, c'est la source de l'Oulian. Donc, il y a des pointes. Les pointes, ça peut monter à 80 litres par seconde. Alors, là, il y a une pointe en violette à 100 litres par seconde. Donc là, ça sort comme ça. Mais ça sort par le haut, par le bassin supérieur. Pour ceux qui connaissent le site, il y a le bassin supérieur qui est, il doit y avoir de l'eau au fond actuellement, parce qu'il y a beaucoup plu. Peut-être que ça coule même, pas peut-être énorme, parce que ce qui pleut actuellement, c'est pas beaucoup utilisé par sous terre, c'est utilisé par la végétation. Il y a beaucoup d'évaporation. Donc, le débit, il y a des pointes de crue. Mais au bassin en bas, petit captage, le débit, lui, il reste toujours relativement faible, puisque là, on est à 100, et là, on est à 0,45, et là, 0,8. Donc, vous voyez, il y a un facteur 100 par rapport au point. Donc là, c'est le fonctionnement d'un trop-plein, typique d'un trop-plein, c'est la même eau,
Elles sont abondamment en haut, donc c'est un trop-plein. Et en bas, c'est la source permanente qui a cette particularité, ici à l'oublier, d'être relativement constante. Là, on a la constante complète. Et là, sur une année, on ne sait pas ce qui s'est passé, la constante, elle est là. Mais l'un dans l'autre, été comme hiver, parce que là, on est en novembre, là, on est en avril, là, on est en août. Même s'augmenter un peu, mais là c'est le début du dérapage. Là on est en avril, là on est en juillet. Ça. Donc c'est relativement constant. Donc c'est une source qui était d'une importance majeure. Hein, parce que ce qui est important, c'est le débit minimum pour une source. Alors, avec ces données de débit et ce que nous savons sur le poste de Martel, il y a trois thèses qui ont été faites. Moi, j'en ai fait une, la première. Après, il y a Philippe Muet, Pierre Marché. Donc, on a une connaissance bien précise sur le poste de Martel et on connaît ce qui est donné en module, ce que donne un kilomètre carré. Un kilomètre carré de cosse, en moyenne, annuelle, ça donne 13,3 litres par seconde. Donc, si ce module, on l'applique au débit qu'on a calculé moyen des sources de l'oublier, c'est-à-dire en 1,6, on arrive à 10, mais on arrive à un bassin versant karstique de 0,72 km². Et tout à l'heure, je vous ai parlé, dans la première carte topographique, je vous ai marqué, je vous ai dit 0,34. Donc là, on est au double. C'est-à-dire, avec la topographie, on avait estimé un bassin versant de 0,34, mais avec le bilan d'eau, on double. Voilà. Donc, je compare ces deux chiffres, 0,72 et 0,34. Là, c'est la fin de la première étude qu'on a faite à la demande de Jean-Pierre Giraud sur les sources de l'Oulier. Donc, après, on passe en 2008. On a eu un géologue de Montpellier qui est venu, qui a été commandé. Il y a une étude consistante, hein, un beau livre, avec très très bien illustré, c'est M. Camus. Et donc, moi, il ne m'a pas rencontré, hein. Pourtant, les gens qui sont habitants du coin, ils me connaissent. Lui, il était trop loin, il ne connaissait pas, peut-être, il n'est pas venu me voir. Il a fait son étude, et qui a débouché sur une conclusion par rapport à la question « Pourquoi le débit est constant à l'oublier ?» Pourquoi ça se maintient constant? Alors, nous, avec mon collègue Perrineau, voilà, le sous-filtre, il y a deux niveaux, un niveau d'étiage, un niveau de crue, l'eau s'accumule en bas. Là, le trop-plein, il est là, il y a une petite vasque. Et là, c'est le débit, la source pérenne. Alors, pourquoi cette source, ça coule tout le temps constant ici? Parce que les fissures sont très étroites. Hein. On n'est pas allé voir dedans, c'est l'interprétation. Hein. Donc, il y a des pertes de charge considérables. Ça passe pas, ça passe mal, il n'y a pas un chenal, il n'y a pas un conduit karstique, il y a juste des fissures. Et donc, le robinet, il est comme ça. Mais quand il pleut beaucoup, dans le massif, ça s'accumule, ça monte, et ça a trouvé un échappatoire plus haut. Et cet échappatoire, c'est le trop-plein. Alors, ce trop-plein, par rapport à l'archéologie, il s'avère qu'il a été fouillé et qu'ils n'ont rien trouvé dedans. Donc, c'est un trop-plein qui n'a pas été creusé par les Gaulois. Donc, les Gaulois ne considéraient pas ce trop-plein, il n'existait pas. Donc, c'était remblayé, c'était comblé. Alors, vous allez me dire, mais où est-ce que l'eau sortait alors? Eh bien, l'eau est sortie aux sources adjacentes que je vous ai montrées, là. Les 7, 8, 6, 4, 5, elles sortaient là. Elles ne sortaient pas abondamment, mais elles sortaient un peu partout, et ça retenait davantage. Moi, c'est comme ça que j'interprète. Et puis, mais j'anticipe, c'est l'année dernière, quand on m'a demandé de faire les travaux, on a fait une petite expérience de coloration, donc je compléterai ce que je viens de dire après. Donc là, moi, c'est le fonctionnement que j'ai appris, que j'ai vu sur le poste de Martel, et que j'ai retranscrit en petit ce que je connaissais en grand. Alors, ce monsieur Camus, voilà son interprétation. Aquifère épicarstique, lui, il considère, bon, c'est la même coupe, là on est d'accord sur la coupe, mais c'est en haut qu'on n'est pas d'accord. Ici, il a interprété, il a rajouté beaucoup de zigzags, qui traduit une érosion de surface.
une érosion du calcaire de ce, et qui a été remplie par ce qu'on appelle le sidérolithique, donc les argiles et les sables qu'on trouve sur l'Écosse. Et c'est là où il y a la châtaigneraie, la végétation qui s'oppose à la chêneraie, et réputée pour les champignons. Alors voilà, lui, il en a vu du bord, jusque-là, il en a vu partout, et il a considéré donc que l'aquifère, il était là-haut, et que la réserve, le réservoir, il était là-haut. Et qu'il s'est goûté là, lentement, progressivement, et vous voyez ici, il est rempli avec les parties vertes, donc c'est son remplissage de sidérolithique, donc argile et sable, qui font éponge, et on n'est plus dans un milieu... Bien qu'ils disent karstique, on n'est plus dans un milieu karstique, on est dans un milieu poreux, hein, de porc hein, entre les sables, entre les grains de sable. Et c'est ça qui maintient le débit constant. Voilà, donc c'est intéressant à savoir. Moi je déforme, je suis enfant de mon public, mais s'il était là, je lui dirais pareil. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Jean-Pierre Giraud est embêté, lui. Parce qu'il est archéologue, il vient, Camus, il n'y a pas de disque Jean-Paul, Fabre. Alors voilà, Drac. Moi, je n'étais jamais allé à Drac. J'y suis allé. Alors, je suis allé avec Jean-Pierre, comme ça j'ai su où il habitait. Et puis j'ai vu la Drac. Et la Drac, on s'est assis autour d'une table, et il a présenté son travail. Et moi, qu'est-ce que j'avais? Alors j'avais amené quelque chose quand même. On passe. Vas-y. Je ne veux pas passer. Ça, c'est revenu en arrière. Voilà. Je suis monté sur le là-haut pour voir ce remplissage, cette épaisseur de terre. Et sans moyen, hein. Jean-Pierre Giraud était là. Il y avait deux personnes de l'association, M. Lascou, je crois, ou son beau-frère. Et une baramine. Avec une baramine, on a fait des trous. Et là, c'est tous les trous qu'on a fait. 50 cm, 30 cm, 26 cm ont tombé sur le rocher. Moi, je ne suis pas bien équipé, mais avec une baramine, on arrive à descendre à travers le sol. Les argiles, on arrive facilement à descendre de 30 cm, 53 cm, 30 cm. Là, j'ai mis supérieur à 63. En descendant à 63, on n'a pas trouvé le sol, le rocher. Et là, 35. Bon, dans tout ce secteur, et ça, c'est les affleurements rocheux qu'on a vus. Et ça, c'est les vallons. Il y a eu un peu d'argile. Déposé, un vallon suspendu. Donc on a trouvé une profondeur très faible d'argile caillouteuse, mais jamais de sable, comme le prétendait M. Camus. Maintenant, l'observation est limitée à la partie juste au-dessus, le vallon suspendu au-dessus de la soupe. On n'est pas allé sur tout le bassin versant, pas les moyens. Voilà comment ça se présente au-dessus. Le vallon suspendu, c'est ça. Donc là, c'est les champs de crure principales qui ramènent de l'eau. Il y a aussi un ruissellement exceptionnel. Quand il y a des pluies d'orage, comme il y a eu récemment, là, il y a une ancienne ferme ici. Voilà comment ça se présente. On voit les cailloux et tout. Il n'est pas monté là-haut. Mais sur la carte géologique, vas-y. Donc, voilà la baramine. Voilà un petit jeu que j'avais amené. Là, on est dans un ravin. Et là, il y a eu des interprétations aussi du géologue. Qui s'est bien avancé sur archéologie, alors que c'est pas son métier, en disant que ça c'était des barrages hydrauliques pour alimenter le sidérolithique, pour retenir l'eau quand elle ruisselle et pour alimenter ce réservoir, parce que les gens ils avaient besoin de cette eau. Il allait très loin. Bon, là, moi je ne veux pas continuer dans ce débat. Et non, voilà. Passe à la dernière étape de mon intervention, c'était l'année dernière. Donc voilà, c'est, voilà ce qu'il y avait suite aux travaux qui ont été faits en 2010. Voilà la buse ici, là. On ne voit pas bien, mais on voit que l'eau, elle sort, elle est en charge. La buse est en charge. Donc cette buse qui a été bouchée par le travertinage. Donc là, il y a une lumière, là, c'est tout galouilleux. Là aussi, l'eau, normalement, elle passe dans cette buse en dessous, mais. Comme c'est bouché, ça passait en surface. Et donc, c'était en mouillère. Là, on voit bien la mouillère. Ici, là, c'est une autre mouillère. C'est les mouillères des sources adjacentes que je vous avais montrées tout à l'heure, là, en l'an 2000, qui avaient été gommées par les travaux de terrassement faits à la hussarde, avec des gros engins. sans précaution par rapport au site. Mais en même temps, bon, il y a un moment où il fallait quand même rendre le site accessible, même pour les handicapés et pour le public par la suite. Donc nous on est revenu à la petite pelle mécanique, et puis avec moi derrière, avec l'intention de retrouver les sources adjacentes et de retrouver le maximum d'eau. Puisque c'est ça, hein, le site. C'est des remparts qui ont disparu, et c'est des galeries qui restent quelques longueurs, et puis surtout c'est l'eau. Donc retrouver. Alors, donc là c'est la source du Ravin avec cet abreuvoir, qui est la source qui est sous ce rocher, qui est une très belle abreuvoir que j'ai découvert récemment, en fait en 2000, je l'avais pas vu. Donc par cette source, on alimente le bassin romain en bas. Mais le bassin romain, non pas romain, Napoléon III. Pardon, qui a été construit par Napoléon III. Et donc ce bassin, il est à sec en permanence. Donc il y a deux problèmes, il est perméable, donc il faut le rendre imperméable, et surtout, il faut augmenter son alimentation. Donc il est alimenté par là, et aussi il est alimenté par une venue d'eau de la source principale de Louguier. Et donc c'est cette venue d'eau qu'on a renforcée avec les travaux. Vas-y, salut. Donc ça, c'est les sources adjacentes qui avaient été perdues dans la mouillère, on les a recaptées, on les a retrouvées, on a trouvé une là et l'autre là, et on les a mis dans ce moine miniature. Vous savez ce que c'est un moine dans un étang? C'est une buse qui maintient le niveau constant, puisque quand ça monte, ça rentre. Donc ça, c'est un tuyau de 50, de 60, qui a été sur la conduite souterraine qui a été installée pendant les grands travaux. Parce qu'il y a une conduite souterraine. Donc on veut éliminer maintenant cette conduite souterraine pour faire écouler l'eau en surface. Faire comme avant, qu'il y ait un front cascadant. Donc il faut récupérer le maximum d'eau. Donc on récupère cette eau. Pour le moment, on l'envoie là où on peut. Et là, c'est la fluorécéine dont je vous ai parlé, que j'ai mis avec Pascal Métayer qui m'aidait, dans... La source supérieure de Loulier, celle qui n'était pas connue par les Gaulois, celle qui a été creusée plus récemment. Et il y avait une flaque d'eau, mais très petite. Donc on a mis le colorant, mais en même temps on a pompé l'eau de la source inférieure, puisqu'on était en bas en train de travailler, et on l'a montée ici. Donc on a renvoyé de l'eau en haut, et on a vu le colorant sortir. Mais il n'est pas sorti au bassin là, où on a pompé l'eau, le bassin principal. Il est sorti sur les sources adjacentes, ici là. Il est sorti ici et là. Donc ça veut dire que c'est véritablement une source là. Une source qui ne fait que passer, qui sort là et là. Et quand c'était bouché, du temps des Gaulois, ben, l'eau devait sortir abondamment autour. Et puis maintenant que ça a été débouché, l'eau, elle sort, c'est vraiment un trop-plein impressionnant et spectaculaire en période de crue. Alors, là, on va finir avec c'est la photo de l'intérieur du captage, de Loulier. Là, on a remis, parce qu'on ne voyait pas d'eau couler, on a remis une canalisation en fonte. Jean-Pierre avait l'idée de mettre quelque chose en poterie. Bon, la poterie, c'est fragile quand même, donc on a mis un. Et là, maintenant, l'eau coule en permanence. Là, ça, on ne voit pas très bien, c'est en contre-jour, mais l'eau arrive par cette fissure, par deux endroits, il y a deux sources. Et elle arrive dans ce bassin. Mais il arrive une autre source, là, à droite. Et cette source, quand on a travaillé, parce qu'on a travaillé aussi sur le trop-plein, sur la vidange, ça c'est un bouchon de vidange. Donc on l'a vidé, on s'est aperçu, quand on vidangeait ce bassin, à côté, là, il y avait une venue d'eau, directement dans le. Eh bien, elle s'est mise à baisser, mais abondamment. Et dans le bassin ici, l'eau, qui arrivait par un tuyau mais immergé, quand on l'émergeait, on le sort de l'eau en baissant en vidangeant, mais ce tuyau, qui correspond à une source latérale, il se mettait à prendre beaucoup d'eau. Et donc l'eau qui revenait là, eh bien, c'est l'eau
qui se perdait là. Donc, on ne l'a pas fait tout de suite, mais on sait qu'on peut augmenter le débit ici si on maintient ce tuyau hors pot. Donc, on va augmenter le débit. Et ce débit, après, on peut, avec un système de vannes ici, là, vous le voyez, l'envoyer dans le premier bassin pour alimenter ce lavoir Napoléon III.
Voilà, toute l'idée, c'est de gérer l'eau mieux, de la voir et de la tenir. Et la dernière étape dans les travaux, ce qui est envisagé, et moi je l'ai proposé, c'est effectivement d'éliminer cette conduite souterraine, là, et la remplacer par un écoulement aérien, un Talweg, avec un parcours un peu accidenté, avec des petites cascades qui vont vite se mettre en tuf, mais en même temps, garder la possibilité de faire un bypass, c'est-à-dire de renvoyer l'eau de surface dans cette conduite souterraine. C'est-à-dire pour reproduire le fait de ce qui s'est passé pendant la guerre des Gaules. C'est-à-dire la capture des eaux souterraines par les Romains contre les Gaulois. Voilà, je crois qu'on est. Je vais faire la suivante. Voilà, c'est Napoléon III.
Et c'est ici l'arrivée d'eau dans le ravin de nord de la source de l'Oulier là-bas. Donc on a habillé aussi, parce que c'est le trou plein. Je vois plus où elle est. Ah oui, elle est là. Ça, c'est là le trou plein du bassin supérieur. C'est un tuyau en plastique. Là, on le voit blanc, c'est l'intérieur du tuyau. Et autour, il est noir. Vous savez, c'est des tuyaux cannelés qui sont faits pour résister, pour traverser sous les routes. Donc ils ont des anneaux noirs en surface, c'est du plastique. Et là, on essaie d'équiper un site pour les Gaulois, pour faire visiter. Donc ce qu'on a fait, on a masqué tout le plastique avec un enrochement, avec des pierres qu'on a trouvées localement. Les pierres, c'est le calcaire roux de là. Et là, c'est les travaux. Ici, on a remodelé le ruisseau parce que tout débordait ici. Donc là, c'est Pascal Métayer avec ses nippelles. Et on a supprimé la buse qu'il y avait là. On l'a mis un peu. Et l'eau sort directement de la galerie. Et là, il n'y a plus de problème d'encoutement. Mais il peut y en avoir à un endroit, mais c'est juste comme une bouche et on peut racler facilement. Il faut le rendre facile d'entretien. Parce qu'il y aura toujours du calcaire. Alors là, c'est le site vu en photo aérienne. Donc la petite maison là de la tante à monsieur, je m'en rappelle plus. Et là, donc c'est les sources qui étaient en jeu de la bataille. Et c'est ces deux autres sources là, qui étaient latérales. Et les galeries, bon, elles sont là, elles sont dessous dans le tapis. Ouais, là, ça a débouché de la galerie.
Alors, je vais en finir avec cette image, qui est la photo de l'affiche, qui a été très, très bien choisie, parce que on voit bien le Causse de Martel, on voit bien le Puy Dissolu, on voit bien la vallée de la Tourmente qui les sépare, et on voit surtout ce qu'on ne voyait pas jusqu'à présent, c'est la Dordogne. Alors, la Dordogne, elle est représentée par un élément, le galet. Le galet, ça c'est un galet de Gneiss, il est du Massif Central, il a fait un grand chemin, il a fini chez moi et je l'ai verni. Bon, j'en ai qu'un. Et c'est pour vous dire, actuellement à Carsac en Dordogne, ils ont mis des panneaux pour les visiteurs. Ils expliquent le méandre de Carsac. Et ils expliquent très facilement, très simplement, photo aérienne. Et une carte. Parce qu'avant, les photos aériennes, il y avait des cartes. Il y a des cartes de 1700. Donc ça fait 200, 250 ans. Donc on voit l'évolution du méandre. Et c'est impressionnant. Eh bien là, moi je ne l'ai pas fait, mais j'aurais une voie de recherche d'aller chercher ces photos. Remonter de 200 ans, on ne sera pas à remonter de 2000 ans pour remonter aux Gaulois, mais au moins on aura une tendance.
Mais cette rivière, elle devait couler là un jour. S'il y a une falaise là, il y a eu de l'érosion. Et dans la guerre des Gaules, donc relatée par l'écrivain de César, donc le site. Il est contesté parce qu'il n'est pas assez entouré d'eau par rapport à d'autres. Il y a la Tourmente là, mais si la Dordogne elle était là, avec la Sourdoire qui est là-bas,
Vous voyez que là, il y a trois lignes d'eau qui séparent bien cette zone. Voilà, je voulais en finir là-dessus. Moi, c'est une voie de recherche, c'est une supposition, et il faut en avoir. Hein.